Dans l'évangile de Luc et au chapitre 9, et puis dans l'épître aux Romains au chapitre 15. Luc chapitre 9, verset 28. Il arriva environ 8 jours après ces paroles qu'il prit avec lui Pierre et Jean et Jacques, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et comme il priait, l'apparence de son visage devint tout autre, et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici deux hommes qui étaient Moïse et Élie, parlaient avec lui, lesquels, apparaissant en gloire, parlaient de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, et quand ils furent réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Et il arriva, comme ils se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Et faisons 3 tentes, une pour toi et une pour Moïse et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. Et comme il disait ces choses, une nuée vint et les couvrit. Ils eurent peur comme ils entraient dans la nuée. Et il y eut une voix venant de la nuée disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et la voix s'étant fait entendre, Jésus se trouva seul. Et ils se turent et ne rapportèrent en ces jours-là à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains, verset 5, « Le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. » L'expression principale sur laquelle nous désirerions attirer notre attention dans ce passage de Luc 9, c'est ce que nous avons au verset 30, « Moïse et Élie parlaient avec lui. » Parler de sa mort, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Cette scène de la montagne de la Transfiguration est rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17, dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Il en est fait référence dans la deuxième épître de Pierre au premier chapitre. Pierre rappelant ce dont il avait été témoin oculaire avec les deux autres disciples. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas la scène de la Transfiguration, mais en fait, dès le premier chapitre, avec Jean, l'évangéliste, avec le souvenir qu'il en a, avec le témoignage qu'il en rend, nous voyons cette gloire du Fils, la gloire du Fils unique, la gloire du Fils venant de la part du Père, le Fils qui est dans le sein du Père. Et c'est un caractère donc particulier de cet évangile que de nous présenter cette gloire du Fils unique de la part du Père dès le premier chapitre, comme si donc, en quelque sorte, nous étions avec Jean, avec Pierre, avec Jacques, sur cette montagne de la Transfiguration. Dans cet évangile de Luc, nous pouvons voir 5 phases différentes dans cette scène. Il y a tout d'abord la prière. Deuxièmement, il y a la transfiguration elle-même, ou encore, pour reprendre l'expression de Pierre dans son épître, la majesté de Christ. Dans la troisième partie, voilà la nuée, c'est-à-dire la gloire magnifique dont nous parle Pierre. Dans une quatrième partie, voilà la voix qui se fait entendre, la voix du Père. Et dans la cinquième, c'est le silence. Jésus se trouve seul et les disciples se taisent. Présente le Seigneur Jésus dans un de ces témoignages de la grâce de Dieu, caractéristique de l'évangile de Luc, prenant avec lui 3 disciples pour prier sur cette montagne. Et au fur et à mesure que le Seigneur Jésus prie, son visage devint tout autre et son vêtement devint blanc et resplendissant comme un éclair. Nous n'insistons pas davantage et nous arrivons à la deuxième partie, qui est donc l'entretien. Je fais une erreur dans l'énoncé des parties. Il y a d'abord la prière, ensuite la prière et la majesté, pardon, la prière et la gloire, la transfiguration de Jésus. La deuxième partie, c'est l'entretien. La troisième, c'est la nuée. La quatrième, c'est la voix. Et la cinquième, c'est le silence. Excusez cette erreur dans l'énumération des cinq parties de cette série. Donc, après la prière, voilà donc l'entretien. C'est le sujet qui est là devant nous, principalement. Moïse et Élie apparaissent en gloire. Et c'est encore un autre témoignage de la grâce de Dieu dans cette scène en particulier, mais aussi dans l'évangile de Luc. Si d'une part les trois disciples étaient admis à monter sur cette montagne pour prier avec Jésus, d'autre part la grâce de Dieu permet que des hommes comme Moïse et Élie apparaissent en gloire, aux côtés du Seigneur Jésus dans cette scène de la transfiguration. Cela, c'est bien une preuve, un témoignage de la grâce de Dieu à l'égard de deux hommes qui ont une triple signification, cette scène. Tout d'abord, ils ont une signification qu'on pourrait appeler dispensationnelle, je n'aime pas trop ce mot compliqué, mais il veut dire que Moïse et Élie sont là devant nous comme faisant partie de l'économie dans laquelle ils ont vécu, l'économie mosaïque, l'économie de la loi et des prophètes. Moïse est celui par lequel la loi a été donnée, Élie c'est le prophète qui, parmi d'autres prophètes, mais tout spécialement lui, a insisté, travaillé dans son ministère qui lui était confié pour que la loi soit maintenu, et c'est pour cela que dans le chapitre 19 du premier livre des rois, eh bien, après sa période d'écouragement, l'Éternel l'envoie jusqu'à Horeb, la montagne de la loi, où la loi avait été donnée, il fallait qu'il revienne jusque-là. Donc, d'abord, une signification dispensationnelle, la loi et les prophètes qui sont là, aux côtés du Seigneur Jésus. Une signification actuel, soit dans un aspect présent, soit dans un aspect futur. Une signification actuelle, Moïse et Élie étant la figure des saints dans la compagnie de Jésus. Dans un aspect futur, parce que c'est ce que nous serons avec le Seigneur Jésus dans le ciel. Moïse, image des saints, étant passé par la mort et ressuscité, enlevé à la rencontre du Seigneur en l'air, avec nous les vivants qui demeurons et qui, comme Élie, n'avons pas à passer par la mort. N'aurons pas à passer par la mort. Nous serons transmués et tous ensemble, ravis ensemble, donc à la rencontre du Seigneur en l'air. Voilà donc cette économie actuelle, un aspect futur, mais aussi déjà un aspect présent. Parce que nous pouvons voir dans Moïse et Élie, dans cette compagnie de Christ, compagnie céleste de Christ, ce que nous sommes déjà par la foi et dont nous parle l'Épître aux Hébreux, à savoir les compagnons de Christ. Nous le sommes en vertu de son œuvre, accomplie à la croix, et par la foi, nous entrons jusque dans le sanctuaire. C'est particulièrement à cela que fait allusion l'Épître aux Hébreux, puisqu'elle est dans sa majeure partie reliée au chapitre 16 du Lévitique, nous savons cela. Et dans le chapitre 16 du Lévitique, eh bien, il y a d'une part le peuple, c'est le peuple terrestre, l'assemblée des fils d'Israël, et il y a d'autre part Aaron et sa famille, c'est-à-dire une figure de l'Église. et cette famille d'Aaron qui se trouve avec Aaron et pour laquelle Aaron offre et un sacrifice pour le péché et ensuite un holocauste, eh bien cette famille figure ce que sont les compagnons de Christ, que nous sommes déjà par la foi. Donc, une signification dispensationnelle en rapport avec l'économie mosaïque, la loi et les prophètes. Deuxièmement, une signification actuelle pour le futur, quand nous serons ravis à la rencontre du Seigneur en l'air, pour le présent, parce que nous sommes déjà par la foi dans cette position avec Christ. Et puis, on peut évoquer une troisième signification prophétique. Cela nous parle à l'avance de ce que nous avons dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, à propos des deux témoins qui sont à mettre en rapport, de façon très précise, avec Moïse et Élie. Nous n'allons pas insister sur ce sujet, nous ne faisons que le suggérer, chacun pourra voir les rapports qu'il y a entre Moïse et Élie, témoins à Jérusalem, dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, et ce pourquoi ici nous les avons dans la compagnie de Christ. Il y aurait d'autres points à relever à ce sujet, répétons-le, nous ne faisons que le signaler en passant. Ce qui nous concerne, bien sûr, c'est la signification actuelle de Moïse et d'Élie sur la Sainte Montagne avec Christ. Et surtout ce côté présent. Le côté futur, nous le connaissons bien, nous savons bien ce qu'il en est, 1 Thessaloniciens 4 nous en parle, et d'autres passages. Et voilà donc pour ce qui nous concerne présentement. Moïse et Élie apparaissent en gloire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Il parle avec lui, avec Jésus, duquel, apparaissant en gloire, parlait de sa mort. Nous avons parlé avec lui. Ensuite, nous avons parlé de sa mort. Il y a une application à faire de cet entretien à ce qui nous concerne. Les réunions d'assemblée, il y a des silences qui ont un double sens. Tantôt, c'est un silence pesant, parce que les cœurs sont vides. Le cœur de l'assemblée est vide. Les cœurs ne sont pas préparés, les consciences ne sont pas exercées. Le silence est lourd. Il peut y avoir aussi des silences qui, tout au contraire, sont riches. Parce que, dans ce silence-là, le parfum remplit toute la maison. Après une action de grâce, après un cantique, ils se turent. Nous avons lu dans le verset 36, c'est ce qui donne le titre à cette cinquième partie, le silence. Ils se turent, l'assemblée se tait. Après certaines actions de grâce, après certains cantiques particulièrement élevés, correspondant à ce qu'il y a dans les cœurs, à ce qu'il y a dans le cœur de l'assemblée, correspondant surtout à ce qu'il y a dans le cœur de Christ à ce moment-là, le silence s'installe. Un silence qui n'est pas pesant. C'est un silence qui est riche. C'est le parfum qui se répand dans toute la maison. Et c'est une bonne chose que de respecter ces silences, les deux. Le premier, parce qu'il nous humilie, et nous allons en dire un mot tout à l'heure, à propos de ne sachant que dire, ou ne sachant ce qu'il disait. Donc, il est bon de respecter ces deux sortes de silence. D'une part, le premier, qui est lourd, parce que les cœurs sont vides, parce que, répétons-le, il nous humilie. Il nous fait voir réellement que voilà, nous étions venus pour écouter la parole, pour être édifiés, pour prier ou pour adorer. Ne faisons pas de différence entre les trois caractères de la réunion, et le silence s'installe. On n'a pas été exercé au sujet des besoins de l'Assemblée, l'Assemblée tout entière d'ailleurs. Ne pensons pas que la réunion de prière de l'Assemblée, c'est uniquement pour l'Assemblée locale. C'est uniquement pour exposer des besoins particuliers. N'oublions pas que dans la réunion de prière de l'Assemblée, c'est la voix de l'Assemblée qui se fait entendre. Et ce n'est pas une addition de prières individuelles. Non, chaque frère qui exprime dans la réunion de prière de l'Assemblée des besoins et des actions de grâce, des requêtes avec des actions de grâce, est l'organe de l'Église entière, non seulement de l'Assemblée locale, ça serait mesquin, mais du corps tout entier, de la même manière que dans le culte, pour la louange. Cela, on sait très bien. On réalise peut-être moins bien ce que l'on comprend à propos du culte, que c'est l'organe, nous sommes l'organe de l'Église tout entière pour exprimer la louange. Mais quant à la réunion de prière, là, on le saisit moins bien, et on le vit encore moins bien. Et bien souvent, dans des réunions de prière, d'assemblée, on assiste en fait à une succession de prières individuelles qui sont peut-être bonnes à leur place dans une maison, dans un foyer chrétien, mais qui dans le fond ne montrent pas qu'on a saisi ce qu'était l'état de l'assemblée, l'état des assemblées, l'état du corps. Et puis même, il faut le dire, l'état de la grande maison, parce que nous sommes solidaires de cette grande maison. Les frères du siècle dernier sentaient tout à fait en humiliation ce qu'était cette solidarité avec cette maison devenue une grande maison. Ceci dit en passant. Donc, à propos des silences, inspectons le silence lourd parce qu'il nous humilie. Aussi bien à la réunion de prière, comme nous l'a rappelé, que dans une réunion d'édification. On arrive, on est là, un peu par routine, on indique un cantique, il va à peu près bien avec le caractère de la réunion, on indique le 72, on fait une prière, et puis on en reste là. C'est une bonne chose d'ailleurs qu'on en reste là, et qu'il y ait un silence qui s'installe. Cela a été vécu, c'est très profitable. Quand on reste pendant 10 minutes, 20 minutes, sans rien dire, ça travaille. Pour les enfants qui sont là, on va raconter une histoire qui est bien connue, qui a été racontée plusieurs fois, elle date du siècle dernier. Et elle concerne, sauf erreur, la conversion de notre frère Ladrière et le fait qu'ensuite il a été serviteur que nous connaissons bien, très engagé pour le maître. Ce frère, il avait une bonne, comment on peut dire, une maison, une sœur, pardon. Et cette sœur aurait désiré que son maître, que son patron, vienne à la réunion avec elle. Et elle l'avait supplié plusieurs fois, et lui, jamais ne voulait. Et puis, un jour, il lui dit, eh bien, cet après-midi, je vais venir avec vous. Or, cette sœur, qui était sa bonne, s'est mise à trembler, à être angoissée, parce que justement, ce jour-là, dans cette assemblée, le nombre était très restreint, et surtout les frères qui avaient quelques dons et qui présentaient la parole étaient absents. Alors elle se disait, voilà, cet homme va venir, et quelle impression va-t-il avoir? Et il est venu. Effectivement, la réunion s'est passée avec beaucoup de silence. On a lu la parole. Et en revenant, cette sœur marchait aux côtés de M. Ladrière sans oser rien dire jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, ce frère lui dise, eh bien, vous savez, cet après-midi, j'ai appris quelque chose. C'est que la chair peut rester muette dans la présence de Dieu. Et ça a été le point de départ de cette profession. Donc voilà un silence qui peut être utile, profitable, parce que ça parle au cœur, ça parle à la conscience. Dans le cas de cette histoire, c'est un peu particulier. Bien sûr, il ne s'agit pas de ce que peut être pour un croyant, conscient de ce qu'est la vie de l'Assemblée, la réunion de l'Assemblée, le côté humiliant d'un silence, nous l'avons dit. Donc, respectons ces silences qui nous humilient, qui montrent notre véritable état. Mais aussi, respectons les silences qui sont chargés d'adoration, de louanges et de parfums pour Dieu. Voilà un côté chose, en particulier pour ce qui concerne la réunion de culte. Mais, quoique les silences aient leur valeur, nous venons de le dire, il y a lieu aussi d'exprimer et de parler. Que faisaient Moïse et Élie ? Ils parlaient avec lui, premièrement. Deuxièmement, ils parlaient de la mort. Il y a des moments où justement, il faut prendre la parole, où il faut exprimer des mots. Et nous allons y revenir. Quelquefois, on va indiquer un cantique en disant, bien, cela va servir à la louange, cela va servir à la bénédiction, aux actions de grâce. Oui, c'est certain. Le chant d'un cantique, le chant de plusieurs cantiques, fait partie du service de la louange de l'Assemblée. Mais, ce n'est pas la même chose que de parler avec lui. Avec un cantique, les paroles sont toutes faites, elles sont tracées à l'avance, elles sont bien séantes, convenables, elles présentent des sujets élevés. Mais elles demandent, le chant d'un cantique demande beaucoup moins d'exercice que de parler avec lui et de parler de sa mort, nous le comprenons bien. Le cantique est ouvert, le choix d'hymne est ouvert, le cantique est indiqué, la mélodie est bonne, les paroles aussi, l'on chante. Est-ce qu'il y a l'exercice qu'il faudrait chez chacun? Un incrédule qui est là, qui connaît la musique et les paroles, peut chanter aussi. Indifférent est le fait d'ouvrir la bouche et d'exprimer quelque chose. Ce n'est pas la peine toujours d'être bien compliqué, d'être bien long. Combien de fois on a cité l'exemple d'un enfant qui s'adresse à son père pour lui exprimer ce qu'il a dans son cœur, tout simplement. Est-ce qu'un enfant, un fils, une fille, parlant à son père ou à sa mère, va employer des formules compliquées et bien longues ? Il va dire tout simplement ce qu'il y a dans son cœur. Que nous soyons davantage exercés à ce sujet, particulièrement les frères, bien entendu. Mais ne croyons pas que parce que les frères ont un exercice au sujet des paroles à prononcer, les sœurs, pour autant, sont détachées de cet exercice. Elles ont, elles aussi, à être exercées. Et c'est une des responsabilités des frères qui prennent la parole que d'être au niveau du cœur de l'Assemblée tout entière, au niveau de ce que les sœurs ressentent elles-mêmes. Est-ce que nous pensons quelquefois, frères, à la déception des sœurs qui sortent d'un local de réunion où le culte a eu lieu et où ce culte n'a pas été à la hauteur de ce qu'elles ressentaient, elles, nos chères sœurs, qui quelquefois vivent plus près du Seigneur que nous, frères. Et nous n'avons pas su exprimer ce qu'elles avaient au-dedans d'elles-mêmes. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité que de parler avec Jésus. Moïse et Élie parlaient avec lui. C'est un premier aspect de cet entretien. Le deuxième, il parlait de la mort. Nous parlons avec Christ. Nous louons avec Christ. Lui commence la louange. Faut-il rappeler le psaume 22 ? Faut-il rappeler Hébreux 2 ? J'annoncerai ton nom à mes frères. C'est lui qui entonne la louange dans la grande congrégation. Et nous avons le privilège, ainsi, de chanter, de parler avec lui. Cela donne l'idée, nous donner une idée de la hauteur de ce que nous avons à exprimer. Ce n'est pas seulement des actions de grâce et de la reconnaissance qui ont bien leur place, c'est certain, dans la réunion de culte. Mais c'est aussi la bénédiction et la louange, l'adoration dont Christ lui-même est le thème. Et comment ne le serait-il pas si nous parlons avec lui? Et si lui-même commence la louange et l'adoration? Et nous parlons de la mort. En quels termes pouvons-nous parler de la mort avec lui? Sinon, en sachant ce que lui-même en pense, ce que lui-même a dans son cœur à propos de sa mort. Moïse et Élie parlaient avec Jésus de la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Est-ce que nous pouvons penser que Moïse et Élie parlaient avec Jésus d'une manière différente de ce que Jésus ressentait lui-même quand il savait ce qu'au bout de son chemin l'attendait? Gethsémané, Golgotha, ils étaient, n'en doutons pas, en communion de pensée et de cœur avec Jésus au sujet de ce départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et c'est cela qui fera toujours la hauteur d'un cœur. Ce sera autre chose que des actions de grâce et de la reconnaissance qui, répétons-le, ont bien leur place au culte. C'est vrai. Mais d'abord, Deutéronome 26 nous montre que l'Israélite plaçait une corbeille de fruits. D'abord, voilà Christ devant le sacrificateur. Et puis après, il disait, eh bien, voilà dans quel état j'étais. Mon père était un araméen qui périssait. Il se rappelle d'où il a été tiré. Mais d'abord, il y a eu la personne de Christ. Mort, ressuscité. Les premiers fruits cueillis dans le pays, pays de Canaan, image des lieux célestes. C'est là où il nous faut être, avec Christ. Et c'est pour ça que nous avons commencé à dire tout à l'heure, il y a une signification actuelle pour le futur, mais aussi pour le présent, parce que nous sommes déjà, par la foi, les compagnons de Christ avec lui, dans le sanctuaire, dans les lieux célestes. Ce sont deux choses différentes, mais n'allons pas dans les détails maintenant à ce sujet. Alors, dans le pays, dans les lieux célestes, là, nous voyons Christ, nous prenons quelque chose de lui, et donc, nous pouvons parler avec lui de sa mort qu'il allait accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire, non seulement la mort expiatoire sur le bois de la croix, les 3 heures de l'abandon, non seulement la mort dans laquelle il est entré pour que par sa mort il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, mais encore sa résurrection, mais encore son élévation dans la gloire. Voilà cette sortie de Christ qui quitte Jérusalem, où il aurait dû être couronné comme roi et comme messie, qui quitte son peuple terrestre qu'il a rejeté. Et nous en avons le témoignage dans les versets qui précèdent. Quand Hérode se demande qui c'était, cet homme remarquable peut-être, mais dont on savait tout juste qu'il était peut-être Jean le baptiseur ressuscité. Quand il demande à ses disciples qui disent les foules que je suis, et les foules ne voyait pas qu'il était le Messie, à plus forte raison qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était le Fils de l'homme, qu'il était le Fils bien-aimé du Père, il ne voyait rien de tout ça. Alors il quittait Jérusalem, il quittait ce peuple terrestre qu'il a méconnu, qu'il ne l'a pas estimé, qui l'a rejeté. Il quitte la terre, il quitte le péché. Parce que 1 Pierre 4 nous dit qu'il s'est reposé du péché. Voilà, il a quitté tout ça. C'est sa sortie, c'est son exode. Eh bien, Moïse et Élie, revenons à notre sujet, à notre entretien, cette deuxième partie de cette scène. Revenons à Moïse et Élie, revenons à notre entretien. Moïse et Élie parlaient avec lui. Ils parlaient de la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il venait de le leur révéler. Il faut que le Fils de l'homme, verset 22, oui. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, etc. Et devant lui, la suite du chapitre nous le montre, il y avait ce vers quoi il dressait sa face résolument, comme un caillou, pour aller à Jérusalem. Voilà le sujet de cet entretien en communion avec les pensées et les affections de Christ, avec tout ce qu'il pouvait ressentir là, sur la Sainte Montagne, à propos de ce qui était devant lui. En harmonie, retenons ce mot, en harmonie, nous en parlons à propos de Romains 15, en harmonie avec Christ. Dans cette partie que nous avons appelée l'entretien, Pierre et les autres sont accablés de sommeil, quand il fut réveillé vers sa gloire. Cela nous montre que dans la présence de la gloire de Christ, la chair est faible. Elle le sera tout à l'heure à Gethsémané, en face des souffrances. Elle nous montre aussi que Satan est toujours là pour voiler quelque chose des gloires de la personne de Christ. Celui dont il essaye toujours de frustrer quelque chose quant à ses droits, quant à sa gloire ou quant à son autorité. Nous avons dit d'abord la chair. Ensuite, Satan a coutume de quand quelque chose ne va pas, quand il y a un péché, un manquement, quand il y a du trouble dans une assemblée, dans une famille, on dit, vous savez, c'est Satan. On interverse quelquefois les rôles à ce sujet, on inverse les rôles. C'est d'abord notre chair. On perd de vue que la chair est en nous, aussi active et aussi vilaine, aussi laide que chez un incrédule, on l'a souvent répété. Et si nous laissons la chair s'activer, c'est vrai que Satan va en profiter. C'est vrai. Mais d'abord, c'est notre propre responsabilité. C'est pour ça qu'il est dit d'abord, par exemple dans 1 Pierre 5, soyez sobres. Cela nous concerne nous. Veillez, ça concerne ce qui nous entoure. C'est le diable qui rôde comme un lion rugissant. Donc, à propos de ce sommeil, il nous faut veiller, il nous faut être en garde quant à nous-mêmes, quant à notre propre cœur. Et alors, quand il soit réveillé, il voit la gloire. C'est encore un témoignage de la grâce de Dieu à l'égard de ses disciples. Ils sont réveillés. Ils ne se sont pas. Il n'est pas dit qu'ils se soient réveillés, qu'ils se sont réveillés eux-mêmes. Ils furent réveillés. C'est la grâce. C'est aussi une image de l'action du Saint-Esprit en nous, qui opère en nous, malgré ce que nous sommes. La fidélité du Seigneur à notre égard, la fidélité de Dieu. L'apôtre se plaît à le rappeler deux fois dans le courant de cette première épître aux Corinthiens qui s'adresse à une assemblée où tant de choses allaient mal. C'est un Dieu fidèle. Chapitre 1er, chapitre 10. Et il arriva comme il s'est parlé de lui que Pierre dit à Jésus, maître, etc. Moïse et Élie sont mis de côté. Cela est en rapport avec leur première signification, si nous voulons bien nous rappeler, nous avons appelé la signification dispensationnelle, c'est-à-dire la loi et les prophètes, l'économie mosaïque. Ils sont mis de côté. Ils vont se séparer de cette scène de gloire. Et à ce moment-là, Pierre s'adresse au maître, et ne sachant que dire, nous dit Marc 9, ou ne sachant ce qu'il disait, comme nous lisons ici, fait une proposition malencontreuse. Pourquoi y a-t-il erreur de la part de Pierre? Premièrement, justement, il veut retenir ce dont Jésus s'est séparé, ce que Jésus a mis de côté, la loi et les prophètes. Moïse et Pierre auraient voulu garder Moïse et Élie avec le Seigneur. Deuxièmement, il aurait voulu garder et retenir la gloire. Il ne réalisait pas qu'auparavant, il fallait la mort. C'est la même disposition qu'il manifeste dans le chapitre 16 de Matthieu, quand, après avoir fait la belle confession que l'on sait à propos du Christ, du Fils du Dieu vivant, après avoir entendu ce que le Seigneur Jésus lui révèle concernant l'Assemblée, après avoir entendu le Seigneur Jésus dire à ses disciples « Il faut que le Fils de l'homme souffre des paroles semblables à ce que nous avons ici au verset 22 », l'apôtre Pierre, le disciple Pierre dit « Dieu t'en préserve ». Il voulait bien considérer le Christ le Fils du Dieu vivant, il voulait bien recevoir la révélation concernant l'Assemblée, mais il n'admettait pas la réjection, les souffrances et la mort de Christ. Et le Seigneur lui répond, « Va, arrière de moi, Satan. » Il y a un peu la même disposition d'esprit ici, chez Pierre, qui pourtant avait bien entendu ce que le Seigneur Jésus lui dit et leur dit au verset 22 concernant les souffrances et sa propre mort, mais il aurait voulu garder la gloire sans qu'il y ait la mort. Or, la gloire repose sur les souffrances et sur la mort en ce qui concerne Christ. Et cette nuée qui tout à l'heure va recouvrir cette scène repose en figure sur la mort de Christ et sur ce qu'il allait accomplir. C'est indissociable. Donc, premièrement, Pierre aurait voulu retenir la loi et les prophètes, alors qu'ils étaient mis de côté. Deuxièmement, il aurait voulu retenir la gloire sans avoir la mort, les souffrances et la mort de Christ. Ensuite, il aurait voulu en quelque sorte que le Seigneur Jésus se repose et s'arrête un instant sur une terre où tout n'est que souillure et ruine, comme nous lisons dans le passage bien connu de Michée chapitre 2. Il n'y avait pas pour Christ où reposer sa tête. Et voilà que Pierre aurait voulu qu'il y ait trois tentes et que le Seigneur Jésus s'arrête et que cette scène de gloire persiste. C'était une troisième erreur. La quatrième, c'est qu'il y a là devant nous une anticipation de la gloire du royaume éternel, cela se voit tout à fait dans la deuxième épître de Pierre au premier chapitre. Une anticipation de la gloire du royaume éternel, il en parle dans les 11 premiers versets de ce royaume éternel, dans lequel une entrée nous sera peut-être richement donnée selon les voies de Dieu dans son gouvernement à l'égard des siens, à l'égard de la fidélité des siens. Je vais un peu trop vite pour dire des choses qui ne sont peut-être pas de toute façon assez faciles à comprendre. Je reviens sur 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1, il y a une anticipation de la gloire du royaume éternel. Pierre rapporte ce qu'il y a ici dans la scène de la Transfiguration. Or, ce royaume éternel, ce que j'ai dit un peu trop vite, ce royaume éternel, il en est question dans les 11 premiers versets du chapitre 1er de la deuxième épître de Pierre. Ce royaume éternel pour lequel une entrée nous sera richement donnée. Nous disons peut-être pourquoi. Parce que dans cette entrée qui nous est donnée dans le royaume éternel est la manifestation des voies de Dieu dans son gouvernement à l'égard des siens selon leur fidélité. Il faudrait reprendre tout le détail des versets qui précèdent le verset 11 pour voir qu'il y a des exhortations qui sont là devant nous afin que nous ne soyons ni oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et moyennant ces choses, nous ne faillirons jamais et une riche entrée nous sera donnée dans le royaume éternel. C'est, nous répétons des phrases que des frères ont écrites bien longtemps avant nous, c'est dans cette riche entrée concrétisation, la réalisation des voies de Dieu dans son gouvernement à l'égard des siens selon leur fidélité. C'est ce qui était à peu près écrit, que chacun pourra retrouver dans ces écrits de nos frères devanciers. Donc, nous avons dit, il y a dans cette scène de la transfiguration une anticipation de la gloire du royaume éternel. Il y a comme une fenêtre ouverte par laquelle les témoins oculaires qui étaient Pierre, Jacques et Jean ont pu voir un peu de cette gloire du royaume éternel. Et justement, Pierre aurait voulu retenir cela, il aurait voulu garder cela. Et c'était une erreur parce que rien ne pouvait être encore établi de ce royaume. Et si dans la nuée, il y a une pensée de l'habitation de Dieu. Il y a d'autres pensées en rapport avec la nuée. Nous n'allons pas entrer dans ces détails, les différents caractères dont nous parle la nuée dans les différents passages de la parole qui nous présente la nuée. Mais s'il y a essentiellement la pensée de l'habitation, eh bien, il était trop tôt pour que l'habitation de Dieu soit établie à ce moment-là. L'habitation avait été faite, le psaume 48 nous le dit, sur la montagne sainte, c'est Sion. Voilà celle que Dieu a désirée, cette montagne, cette ville de Sion, pour être son habitation, comme nous lisons dans le psaume 132, je crois. Eh bien, la montagne sainte, c'était la montagne de Sion, était mise de côté, et la sainte montagne sur laquelle Pierre aurait désiré qu'une habitation dans laquelle Christ, Jésus, aurait eu sa place et continue, cela était à écarter, cela ne reposait pas sur quelque chose d'intelligent spirituellement parlant. Donc, l'Esprit nous dit, ne sachant ce qu'il disait. Il est ému par une... Il est ému. En lui, il y avait de bons sentiments, il y avait une bonne conscience. Il disait cela en toute droiture. Et prenons garde, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ferions de la sorte et que nous faisons de la sorte, en toute droiture, selon notre conscience, selon nos bons sentiments. Et je pensais que s'il y avait eu autour de ces personnages sur la montagne une foule qui a entendu la proposition de Pierre, et même on peut dire une foule de croyants, et qu'on leur ait demandé leur opinion, on peut penser que 99,5% de ces croyants tout autour auraient été tout à fait d'accord avec Pierre. Ils auraient dit, mais enfin, Pierre a tout à fait raison. Voilà, c'est le Seigneur Jésus qui a permis cette scène de la transfiguration. C'est lui-même qui a emmené ses disciples sur cette montagne. Donc, c'est tout à fait bon que de vouloir continuer ce que le Seigneur Jésus a disposé, puisque c'est lui qui l'a voulu cela, eh bien, Pierre a tout à fait raison de vouloir perpétuer cette scène. Oui, seulement, cela nous conduit à des erreurs. Cette perception des choses selon nos sentiments et notre propre conscience, cela nous conduit à des erreurs, parce que le directeur, c'est-à-dire le directeur au singulier du croyant, c'est la parole et le Saint-Esprit. Singulier, alors qu'il y a deux verbes, mais cela se voit dans la parole. La grâce et la vérité vint par Jésus-Christ. Le texte original, c'est vint par Jésus-Christ. Cela ne forme aucun sujet. On a le même exemple dans 2 Thessaloniciens 2, à propos de consoler vos cœurs. Mais voilà, un directeur, la parole et le Saint-Esprit, en même temps. le Saint-Esprit nous présentant la parole, nous ouvrant les Écritures, éclairant nos yeux pour que nous comprenions quelle est la pensée de Dieu. Que nous soyons mis en garde contre ce qui nous risque de nous arriver, bien souvent, en toute bonne conscience et selon notre propre cœur, même s'il y a 99,5% des personnes qui sont d'accord avec nous en disant « mais c'est très bien ». Mais oui, il a tout à fait raison. Non, Pierre ne savait ce qu'il disait, et Marc 9 dit « ne sachant que dire ». Alors, nous voilà revenus aux questions de réunion d'assemblée, parce que nous parlions tout à l'heure des silences qu'il faut respecter, et il faut savoir respecter. Et justement, quelquefois, quand ce silence, de quelque nature qu'il soit, de quelque caractère qu'il ait, pèse trop, alors on le rompt. Alors, ne sachant que dire, eh bien, on dit n'importe quoi. C'est un peu lapidaire d'employer cette expression. Mais enfin, on dit quelque chose qui n'est pas selon l'esprit. Donc, que nous soyons en garde à propos de ces silences de l'Assemblée, que nous ne fassions pas comme Pierre qui, ne sachant que dire, eh bien, il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, ne sachant ce qu'il disait. La voix se fait entendre de la part de Dieu le Père. Ce simple verset 35 est évidemment beaucoup trop important pour que nous y entrions dedans dans le cadre du temps qui est devant nous. Et voilà que, alors, Jésus se trouvant seul, les disciples se tuent. Ils se tuent. Là, il n'y a plus rien à dire parce qu'il n'y a plus qu'à écouter. La voix du Père a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est l'introduction de l'Épître aux Hébreux, cela a été dit et écrit, nous n'allons pas entrer non plus dans ce détail-là, mais dans cette considération, dans ce sujet-là. Mais il y a surtout pour nous la pensée d'écouter le fils bien-aimé dans nos vies. Celui qui a dit « Il faut » au verset 22 « que le Fils de l'homme souffre beaucoup », mais qui a dit aussi au verset 23 « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » Il y a quelque chose qui est en rapport avec sa mort, prendre sa croix pour le suivre, se renoncer à soi-même, réaliser que ce monde que Christ a quitté par cette mort qu'il a accomplie à Jérusalem, nous sommes crucifiés au monde, comme nous lisons à la fin de l'Épître aux Galates, et que nous avons terminé avec notre vie en portant cette croix. Nous savons la signification de cela. Pourquoi avons-nous lu dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains ces quelques lignes? Le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Disons passant que ce mot « recevoir » et strictement, littéralement, le fait de mettre quelqu'un à l'abri, de le protéger. Et si on lisait le chapitre 14, avec quelque attention, on comprendrait beaucoup mieux le sens de ce mot que nous rappelons dans son sens étymologique. Mettre quelqu'un à l'abri, le protéger. Ainsi, Christ a fait pour nous. Ce n'est que par extension qu'on applique ce passage, ce verset 7, à la réception à la table du Seigneur. En fait, ce qu'il faudrait d'ailleurs bien ajouter, c'est que nous ne recevons pas quelqu'un à la table du Seigneur. Le Seigneur, lui, reçoit à sa table. Et l'Assemblée, qui a la gestion, l'administration d'elle-même pour le compte du Seigneur reçoit quelqu'un à la table du Seigneur. Elle le fait pour le Seigneur et au nom du Seigneur. L'Assemblée gère, l'Assemblée administre une autorité, un pouvoir qu'elle reçoit de celui qui en est le chef, le Christ. Elle agit en quelque sorte par délégation. Quand quelqu'un a un ensemble de choses à gérer, que ce soit un budget, que ce soit des affaires ou autres, eh bien, celui qui confie cette gestion lui donne délégation de pouvoir et délégation de signature. Et faire quelque chose au nom du Seigneur, c'est proprement avoir la délégation de sa signature, en quelque sorte. Nous faisons comme si lui-même signait. L'Assemblée pour le Seigneur, au nom du Seigneur, au compte du Seigneur, par délégation de la part du Seigneur, reçoit. Mais c'est le Seigneur qui reçoit. Tout se passe comme si c'était le Seigneur qui reçoit à sa table. Alors, bien sûr, dans le langage courant, il y a des expressions commodes et qui sont faibles ou peut-être même incorrectes. Mais nous les employons parce qu'elles sont plus faciles. Et c'est vrai que nous parlons communément d'admission à la table du Seigneur, que nous recevons quelqu'un à la table du Seigneur. Mais si nous voulons être précis et revenir aux choses telles qu'elles sont, c'est le Seigneur qui reçoit et l'Assemblée qui reçoit au nom du Seigneur, à la table du Seigneur. À ce moment-là, disons entre parenthèses que ce quelqu'un n'entre pas dans l'Assemblée. On le dit quelquefois. Eh bien maintenant, tu es dans l'Assemblée. S'il est reçu à la table du Seigneur, c'est qu'il fait déjà partie de l'Assemblée, comme étant membre de ce corps qu'est l'Assemblée. Sauvé par la grâce et par la foi, scellé du Saint-Esprit, eh bien, il fait partie de l'Assemblée corps de Christ. C'est pourquoi le Seigneur peut le recevoir à sa table, en toute liberté, puisqu'il est déjà, donc, membre de son corps. Tout au plus pourrait-on dire qu'étant reçu à la table du Seigneur, il entre parmi les porteurs du témoignage confié à l'Assemblée locale. L'Assemblée locale est l'expression du corps tout entier. À cette Assemblée est confié un témoignage, le témoignage de Christ, le témoignage de Dieu. Ceux qui sont là, constituant cette Assemblée locale, sont les porteurs de ce témoignage. Alors, quelqu'un qui entre, quelqu'un qui est reçu à la table du Seigneur, entre, oui, il entre dans un ensemble. Cet ensemble, ce sont les porteurs de ce témoignage. Mais ne disons pas, comme on l'entend quelquefois dire, eh bien, maintenant que tu es à la table du Seigneur, tu es dans l'Assemblée. Non. Il faisait partie de l'Assemblée, et c'est comme tel qu'il a été reçu à la table du Seigneur. Le Dieu de patience vous donne d'avoir entre vous un même sentiment selon le Christ Jésus, afin d'un commun accord, d'une même bouche, vous glorifie. Nous remontons la chose. Nous avons commencé par la fin, volontairement. Parce que nous avons d'abord parlé, très rapidement, de l'Assemblée, de la table du Seigneur, de ce témoignage qui lui est confié. Et maintenant, nous arrivons à la vie de l'Assemblée. Parce que glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'un commun accord, d'une même bouche, c'est au sens strict, bien entendu, le culte. Mais d'une manière plus générale, c'est les réunions d'Assemblée. Et plus encore, c'est la vie de l'Assemblée. La vie de l'Assemblée doit être à la gloire de Dieu le Père, selon la responsabilité qui est la sienne, selon le témoignage qui lui a été confié. Et cela ne peut être, cette glorification de Dieu le Père, que dans la mesure où il y a un commun accord et une même bouche. Alors bien sûr, revenons à ce sujet, cela se traduira d'une manière évidente dans le culte de l'Assemblée, mais cela doit se voir aussi dans la marche de l'Assemblée 7 jours sur 7 et dans la vie de l'Assemblée 7 jours sur 7. Alors de temps en temps, quand il y a une réunion, on s'aperçoit Dieu le Père, Christ, chef et tête de son corps, constate en quelque sorte lors des réunions d'une manière plus concrète ce qu'est cette vie de l'Assemblée et cet état de l'Assemblée. Mais cette vie et cet état de l'Assemblée, c'est 7 jours sur 7. Ce commun accord à la gloire de Dieu le Père, c'est le fait que chacun de nous est exercé à l'égard de l'Assemblée et de la vie de l'Assemblée. Le commun accord, qu'est-ce que c'est? C'est l'harmonie. Nous avons dit tout à l'heure, retenons ce mot d'harmonie. Quand Moïse et Élie étaient sur la montagne avec Jésus, ils parlaient avec Jésus, ils parlaient de la mort qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ils étaient en communion de pensée et de sentiment avec Christ sur l'objet qui était là devant Christ lui-même, cette mort, ils étaient en commun accord avec lui, ils étaient en harmonie. Cela procède de la communion. Et cette communion collective, cette communion les uns avec les autres, procède de notre communion individuelle avec le Père et son Fils bien-aimé. Nous connaissons bien l'enchaînement tel que nous l'avons dans 1 Jean 1. D'abord, notre communion individuelle avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Il en résulte une communion les uns avec les autres et la joie de Christ est accomplie en nous. Et puis, alors, peut se réaliser pratiquement ce commun accord. Qu'est-ce que c'est que le commun accord? C'est ennuyeux de donner une définition qui est négative, mais le commun accord, c'est quand il n'y a pas de fausse note. Dans un culte, dans une autre réunion d'assemblée, il peut y avoir une fausse note, plusieurs fausses notes. Qu'est-ce que c'est que ces fausses notes? Ces fausses notes, c'est le Saint-Esprit qui n'agit pas comme il désirerait agir. Dans les réunions d'assemblée, le seul qui ait la liberté d'agir, le seul et unique, c'est le Saint-Esprit. Et les frères sont là pour se laisser envahir par l'Esprit et l'action du Saint-Esprit et faire en sorte qu'ils puissent exprimer à la gloire de Dieu le Père quelque chose de Christ. La fausse note viendra du fait que l'on résiste à cette action. Soit en ne sachant que dire, Marc 9, soit en se taisant volontairement. Un état comme l'autre est tout aussi coupable, solennel et sérieux dans la vie de l'Assemblée. Un frère se dit, ben maintenant je ne dis plus rien. Parce que ceci, parce que cela, parce que l'un, parce que l'autre, en général, jamais à cause de soi-même, et il se tait. Ou bien, au contraire, ne sachant que dire, il rompt le silence qui est pesant et il donne des paroles charnelles. Dans un cas comme dans l'autre, eh bien, c'est la fausse note. Ça ne peut pas être le commun accord qui est réalisé. Et cela est évidemment très pénible. Pénible d'abord pour nous-mêmes, pour l'Assemblée, mais pensons à celui qui est là au milieu, parce que nous sommes réunis en son nom. Nous avons coutume de dire quand quelque chose ne va pas, c'est l'un, c'est l'autre. S'il n'y avait pas cette sœur, aujourd'hui, ça irait beaucoup mieux. S'il n'y avait pas ce frère, vous savez tout ce qu'il fait, vous savez sa maison, vous savez ses enfants. Etc. C'est pas étonnant que le culte ait été gâché, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas eu comme un accord. Oui, pensons à deux choses. Pendant la nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus a rassemblé les siens autour de lui et il leur dit que l'un d'entre eux allait le livrer. Eh bien, chaque disciple a l'honnêteté, la droiture et la sincérité de dire « Seigneur, est-ce moi ?» Premièrement. Deuxièmement, pensons au psaume 139. « Éternel, tu m'as sondé, tu m'as connu, moi. » Et un peu plus loin, à la fin, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vois s'il n'y a pas en moi quelque voie de chagrin. » Quand quelque chose ne va pas, pensons d'abord à nous. Le psalmiste David, dont nous prenons les paroles en les étendant à ce qui nous concerne, ne dit pas « Sonde un tel !» Sonde cette sœur, connais son cœur, regarde s'il n'y a pas chez ce frère quelques voix de chagrin. Non, c'est lui. Bon, lisons exactement, parce que je les cite avec une certaine approximation, ces deux versets du psaume 139. Les deux derniers versets, 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle. Ce n'est pas comme au psaume 19, purifie-moi de mes fautes cachées, ou bien si j'ai péché par fierté, agis en moi. Ce n'est pas comme au psaume 51, aussi où David confesse son péché. Il ne s'agit pas de péché expressément ici. Il s'agit de quelques voix de chagrin, de quelque chose qui a troublé. Oui, répétons l'expression, une fausse note. Ce qui peut être à l'origine d'une fausse note, ce qui peut troubler le commun accord, ce qui peut faire que les saints ne peuvent glorifier notre Dieu et Père d'une même bouche. Alors, au lieu de dire, revenons encore là-dessus, Éternel, sonde ce frère, sonde cette famille, regarde si chez tel enfant il n'y a pas une voix de chagrin. Non, moi d'abord, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. On est de très bons censeurs pour les autres. À voir ce qui ne va pas chez l'un, accuser l'autre. Et puis, est-ce que vraiment on demande à celui qui m'a connu, qui m'a sondé, encore de me sonder, encore de m'éprouver, encore de voir si en moi il n'y a pas un petit trou, quelques voies de chagrin, mais qui peut être à l'origine de quelque chose de plus grave. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces deux derniers versets du Psaume 32 ? Mais ça veut dire que nous avons à vivre selon la lumière du tribunal de Christ. Le tribunal de Christ ne projette pas son ombre sur notre sentier et dans nos cœurs. Il projette sa lumière. Et nous ne pouvons qu'être heureux à la lumière du tribunal de Christ qui fait partie de l'espérance chrétienne. Nous ne pourrons qu'être heureux devant le tribunal de Christ, parce que nous sommes justice de Dieu en Christ. Et nous avons été justifiés en Christ. Et nous aurons exactement la même pensée que celui qui est sur le tribunal à l'égard de tout ce que nous aurons fait, soit bien, soit mal. Et il n'y aura aucun trouble. Et nous pourrons alors sonder tout le résultat de la grâce de Dieu à notre égard. Tout ce en quoi, dans nos vies, il y a eu un manque à gagner, tout ce en quoi, à la gloire de Christ et par la grâce de Dieu, il y a eu quelque chose pour lui. Dans telle circonstance, le Seigneur nous dira, eh bien, ouais, il n'aurait pas fallu faire ceci et cela, il y avait un motif que je juge maintenant, qui apparaît dans la pleine lumière, eh bien, au lieu d'avoir 10, tu as 5, voilà un manque à gagner, au lieu d'avoir 3, tu as 1. Voilà quelque chose qui sera manifesté, mais nous serons en pleine communion avec celui qui est sur le tribunal. C'est quelque chose qui est peut-être difficile à expliquer, tellement, peut-être, on a eu l'impression que le tribunal de Christ était une menace qui pesait sur nos vies et sur nos cœurs. C'est quelque chose qui projetait une ombre et non pas une lumière. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8, verset 1. Et au tribunal de Christ, il n'y aura aucune condamnation. Cela projette sa lumière sur nos vies pour qu'il y ait un résultat en sainteté, en sanctification. C'est le point de départ. Sonde-moi, sonde mon cœur. Pénètre de ta lumière jusqu'au moindre recoin de mon être. Voilà la lumière du tribunal de Christ, dans laquelle je peux me mouvoir à l'aise si j'ai conscience de tout ce qu'est la grâce de Dieu. On est mal à l'aise dans la lumière si on n'a pas le sentiment de la part. Cela fait partie de l'espérance chrétienne. Il y aurait trop à dire maintenant, l'heure qui s'avance sur ce sujet. Mais on peut dire encore ceci, c'est que le tribunal de Christ comportera plusieurs séances. Quand nous circulons dans une ville, nous voyons le tribunal de grande instance. Et bien ce tribunal de grande instance a plusieurs séances. Il en est de même pour le tribunal du Christ. Il y aura une séance pour les croyants. Il y aura une séance pour les hommes vivants, Matthieu 25. Il y aura une séance pour les morts qui seront ressuscités en résurrection du jugement. Je veux donc entrevoir rapidement ce sujet qui est quand même trop long pour développer maintenant. Mais retenons ceci, cette pensée du psalmiste de David, son pouvoir, afin que le commun accord puisse être réalisé. Qu'il y ait ainsi dans la vie de l'Assemblée, dans la réunion de l'Assemblée, et particulièrement dans le culte, de quoi glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y va de notre responsabilité individuelle. Ça aussi, c'est un beau sujet à considérer. La responsabilité individuelle du croyant en rapport avec la vie de l'Assemblée. Nous conduit à n'être ni paresseux ni oisif. C'est trop facile de dire, bien, maintenant que je suis converti, maintenant que je suis sûr d'aller au ciel, maintenant que je suis sûr de cet avenir et de cette espérance, eh bien, peu importe. Le salut est là, la grâce est là. Nous avons à réaliser que nous sommes partis de ce corps de Christ, cette Église, corps de Christ, et que notre responsabilité est engagée, afin que nous puissions parler avec Christ de ce qu'il est lui-même, et de sa mort, en parler avec lui dans une scène de gloire et sous le regard du Père pour sa propre satisfaction et sa propre louange.